Vous écoutez RFI, il est 8h30 à Paris, 2h de moins en temps universel. L'heure du journal. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous. Et ce sera une alerte en RDC pour débuter ce journal. Elle émane des Nations Unies qui s'inquiètent du recul flagrant des droits humains, tout particulièrement dans l'est du pays. Un grand des lettres africaines qui s'éteint. Les hommages affluent. Le philosophe congolais Valentin Yves Moudimbé est décédé à l'âge de 83 ans. Il refuse d'être vu comme un visiteur du soir du gouvernement et du président congolais à Brazzaville. Le chef de l'opposition Pascal Tsatsi Mabiala répond aux rumeurs à un an de la présidentielle. Après Jacques Chirac en 2005, Emmanuel Macron attendu aujourd'hui à Madagascar. L'occasion pour lui d'affirmer la place de Paris dans l'océan Indien, au canal du Mozambique notamment, vous l'entendrez. Leurs sifflets ne retentiront probablement pas cette semaine dans les stades du Cameroun. Les arbitres de foot sont en grève. Ils réclament des primes impayées à la fédération. Et puis, un film documentaire, Liti, pour montrer le déracinement des habitants de Dakar face à l'implantation du TER dakarois. Ce sera notre dossier ce matin. Derrière les chiffres, dans l'ombre des statistiques, il y a autant d'humains. Et c'est pour alerter sur leur sort que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme tire la sonnette d'alarme en RDC, particulièrement dans l'Est, toujours en proie aux violences et aux conflits armés, une région où la situation serait en net recul, Pauline Azidi.
L'ONU recense pour ce mois de février plus de 1200 victimes de violations et d'atteintes aux droits humains dans l'ensemble du pays, un nombre en augmentation de 47% par rapport à janvier 2025. Comme pour les périodes antérieures, ce sont dans les provinces en conflit qu'il y a le plus de signalements, le Nord Kivu, l'Ituri, mais aussi le Sud Kivu, où le nombre de violations a augmenté de 158% en tout juste un mois. Le BCNUDH qui alerte particulièrement sur la flambée des violences basées sur le genre, plus 152%, même inquiétude concernant les violations affectant les enfants, plus 137% par rapport au mois de janvier. Là encore, c'est dans les zones de guerre que l'on retrouve le plus de cas. Mais la situation s'est aussi dégradée dans les provinces qui ne sont pas en conflit. Près de 45 violations et atteintes aux droits de l'homme enregistrées par les Nations Unies, soit une augmentation de 28% dans le reste de la RDC. Pour le bureau conjoint, cette donnée reflète, je cite, l'augmentation des arrestations et détentions arbitraires dans les provinces du Haut-Katanga et de Kinshasa dans le contexte de l'expansion du M23. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Un concert prévu pour venir en aide aux victimes de la guerre dans l'Est de la RDC, justement, le concert Solidarité Congo. Il avait provoqué un tollé car les organisateurs l'avaient annoncé dans un premier temps le jour des commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda. Il a finalement eu lieu hier soir à Paris, ce concert. Les stars Fally Ipupa, Youssoupha, Gims et son frère Tadjou se sont produits à l'Accor Arena de Bercy aux côtés d'une trentaine d'autres artistes devant près de 11 000 personnes. Un nouveau drame sur le fleuve Congo, un canot rapide qui faisait la liaison entre Brazzaville et Kinshasa a chaviré hier. L'embarcation comptait 16 personnes à son bord. Selon un premier bilan de l'agence congolaise de presse, il y aurait 5 disparus. Le trafic a un temps été interrompu entre les deux capitales avant de reprendre dans l'après-midi. La RDC et cette alerte concernant l'anthrax, également appelée maladie du charbon, signalée dans la région du parc des Virunga et du lac Édouard au Nord Kivu depuis le 22 mars. Concernant le bilan humain, 8 cas suspects identifiés et un décès enregistré dans la zone selon le ministère congolais de la Santé. Il laisse derrière lui un héritage immense à la hauteur de ses écrits. Le philosophe congolais Valentin Yves Moudimbé est décédé dans la nuit de lundi à mardi aux États-Unis où il résidait. Il avait 83 ans. Lui qui était né en 1941 dans le Haut-Katanga, auteur prolifique entre romans, recueils de poésie, mémoires, reconnu pour ses essais également à l'image de l'invention de l'Afrique qui avait reçu un bon accueil après sa publication en 1988, tant et si bien que dans leurs études africaines, les universitaires ne peuvent pas faire l'impasse sur ses œuvres, comme nous l'explique ce matin Maëline Lelay qui lui rend hommage. Elle est chargée de recherche au laboratoire Les Afriques dans le monde au CNRS.
C'est un auteur qui a considérablement marqué son époque et disons tout le champ universitaire à la fois congolais mais aussi plus largement européen et nord-américain. C'est un auteur qui était à la fois philosophe et écrivain. Il est l'auteur de plusieurs œuvres qui sont devenues des références de par le monde, donc de l'Europe à l'Amérique du Nord, en passant par l'Afrique évidemment, où il a commencé sa carrière d'écrivain. Et en fait, ce que l'œuvre de Moudimbé et sa réception ont de singulier, c'est le fait que la partie littéraire et la partie philosophique sont en fait assez polarisées dans leur écriture et leur réception, voire cloisonnées. C'est-à-dire que la dimension littéraire de son œuvre, elle a été écrite en français dans une première partie de sa vie, lorsqu'il était professeur à l'Université nationale du Zaïre de Lubumbashi, alors que la dimension philosophique, quant à elle, a été essentiellement été écrite depuis les États-Unis, où il vivait depuis les années 80. Et donc, ce qui fait que Moudimbé est surtout connu dans le monde anglophone pour ses écrits philosophiques et dans le monde francophone pour ses écrits littéraires.
L'hommage de la chercheuse Maëline Lelay. La vie politique du Congo-Brazzaville à présent, avec la mise au point du chef de file de l'opposition, Pascal Tsatsi Mabiala, le secrétaire général de l'UPADS. Il dément être un opposant de nuit, comme le laissent entendre certaines rumeurs pressantes. Comprenez, un opposant qui honorerait en réalité des rendez-vous secrets avec le gouvernement, loin des regards indiscrets. Ces rumeurs écornent son image, alors que Pascal Tsatsi Mabiala souhaite se poser en rassembleur à moins d'un an de l'élection présidentielle. C'est en tout cas ce qu'on comprend en écoutant sa réponse hier devant la presse.
Je ne suis allé au palais que lorsqu'il y avait des occasions officielles. À l'occasion du 15 août, à l'occasion de la déclaration du président, les leaders politiques sont invités à un cocktail, à la Garden Party. Mais en dehors de ça, moi, je n'ai pas allé. Plus encore aujourd'hui, où j'ai une responsabilité, le président me reçoit quelquefois en tête à tête, donc je n'ai plus à me cacher. Donc ça ne s'adresse pas à moi, vraiment pas à moi. Deuxièmement, il était un devoir pour moi d'appeler au rassemblement de l'opposition. Maintenant, mais nous voulons qu'il y ait des camarades qui partagent aussi nos idées. La notion que nous avons, nous, de la démocratie, le respect des uns, la tolérance, la radicalité, nous ne la voulons pas. Elle a causé tellement de dégâts dans notre pays. J'espère qu'on a tourné le dos à cela.
Les mots de l'opposant congolais Pascal Tsatsi Mabiala. À l'agenda du président kényan, une visite d'État de 4 jours en Chine. William Ruto a atterri dans la soirée à Pékin. Il s'agira notamment pour Nairobi de débloquer de nouvelles opportunités dans le commerce, les infrastructures et les investissements sur fond de guerre commerciale américano-chinoise. 20 ans qu'un président français ne s'était pas rendu à Madagascar. Emmanuel Macron est attendu dans la matinée sur la Grande Île. Une escale de 36 heures dans sa tournée dans l'océan Indien après Mayotte et La Réunion. Il assistera entre autres au sommet de la Commission de l'Océan Indien auquel la France participe au titre de l'île de La Réunion, justement. Il s'agira pour Paris de réaffirmer ici sa présence dans la région. Ce déplacement devrait par exemple être l'occasion d'évoquer la présence française dans le canal du Mozambique, une zone maritime séparant donc le continent africain de Madagascar et dans laquelle Antananarivo revendique les îles éparses, battant pour leur pavillon français. Une zone économiquement stratégique, Nicolas Feldman.
Le canal du Mozambique, long de 1500 km, est d'abord une route du transport maritime mondial, un axe redevenu central ces derniers mois depuis les tensions en mer Rouge. Jean-Marc Balancier est expert de la région pour le cabinet de conseil Attica Analysis.
Une bonne partie du trafic international qui passait par Suez a été détournée, ce qui a entraîné une augmentation très significative du trafic passant par le canal de Mozambique. C'est une route assez stratégique parce que donc ça permet de joindre les marchés, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe.
Mais les eaux du canal du Mozambique, très riches en poissons, abritent aussi d'importantes réserves de gaz et de pétrole.
L'exploitation a déjà démarré en Tanzanie. Au Mozambique, là où les gisements semblent les plus importants, c'est au niveau de la zone du Cabo Delgado. Plusieurs très grands opérateurs énergétiques occidentaux se sont positionnés dessus. Le problème, c'est que l'insécurité régnant au Cabo Delgado bloque le bon déroulement du projet.
À Mayotte, Emmanuel Macron a insisté sur les opportunités économiques du canal du Mozambique. Pour les Mahorais, selon le chef de l'État, de grandes entreprises françaises devraient bientôt s'y déployer.
Et un autre conflit de territorialité devrait être d'ailleurs évoqué, Nicolas Feldman, autour de Mayotte, que Paris souhaite voir représenter également à la Commission de l'Océan Indien. Malgré les revendications des Comores sur ce territoire, notons que le président français a par ailleurs annulé sa dernière escale prévue vendredi à Maurice, officiellement pour pouvoir assister aux obsèques du pape François qui seront organisées samedi à Rome. Ils laissent leurs crampons et leurs sifflets au vestiaire au Cameroun. Les arbitres de foot sont en grève depuis lundi, ceux qui officient dans les championnats masculins mais aussi féminins. Il réclame à la fédération camerounaise des arriérés de primes pour un total de 300 millions de francs CFA. Résultat, des matchs pourraient être annulés cette semaine, même si la FECAFOOT se veut rassurante, Joël Wadem.
Trois rencontres du championnat de première division sont prévues ce mercredi. Malgré la grève des arbitres depuis lundi, Faustin Bida, le secrétaire général du CTFP, la structure de la Fédération camerounaise de football en charge de l'organisation des championnats, pense que ces matchs se joueront bien.
Nous avons pris les dispositions pour que les officiels puissent diriger ces matchs-là. Au niveau interne, le président de la Fédération camerounaise de football a donné des instructions pour qu'on puisse éponger totalement ce qu'on leur doit. On a pris des dispositions pour que dans l'avenir, que cela aille plus rapidement. C'est pour ça qu'à partir de cette 21e journée, nous pensons que beaucoup de choses vont évoluer.
L'Association camerounaise des arbitres de football pose comme préalable au retour des hommes et femmes en noir sur les terrains le paiement intégral des 300 millions de francs CFA de primes que lui doit la FECAFOOT. L'ancien arbitre international Alioum Sidi est le président de la CAF.
Nous n'avons jamais eu ce problème. On est dépassé. Nous voulons qu'on essaye de payer les arbitres. Nous allons continuer le championnat tranquillement. On a demandé aux arbitres de rester soudés. Et si un arbitre tentait d'aller dans l'aire de jeu, nous, l'association des arbitres de football, nous allons les radier.
Si les rencontres prévues ce mercredi ne se disputaient pas du fait de la grève des officiels, ce serait une grande première dans l'histoire du football camerounais. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Des existences bouleversées sur l'autel du progrès et de la mobilité. Pour répondre au casse-tête des transports urbains au Sénégal, les autorités ont mis sur pied le TER Dakarois, un train dont le second tronçon est attendu pour cette année, mais la première phase est opérationnelle depuis 2021, année à laquelle la mère d'un cinéaste sénégalais est sommée de quitter sa maison, comme des milliers d'autres. Ce cinéaste, c'est Mamadou Kouma Gueye. Il en tire son premier long métrage, L'Itiliti. C'est notre dossier, signé Juliette Dubois.
Sornandia est la mère de Mamadou Kouma Gueye, a passé 40 ans dans sa maison du quartier de Guinaoraï en banlieue de Dakar avant d'être expulsée pour laisser place au TER comme 250 000 riverains, puis relogée dans un nouveau quartier. Le réalisateur a d'abord commencé à la filmer pour son usage personnel pour documenter le départ de la famille.
Il y a des ruines. À partir de ces ruines-là, il y a notre mémoire, il y a des souvenirs. Moi, en tant que j'ai fait des études d'histoire, l'histoire permet aussi de continuer à vivre dans le temps. Donc, faire un témoignage, mais essayer de sauver le maximum entre le mémoire que j'appelle souvent l'âme du quartier aussi.
Les images des destructions des maisons et du désespoir de la mère de Rouma, arrachée à ses racines, alternent avec les images promotionnelles du TER et les discours d'hommes politiques vantant la modernité, un tiraillement que le réalisateur a voulu mettre au cœur de son film.
Il est question aussi de faire une introspection. On veut le développement, mais il faut penser aussi quel développement on veut. En tout cas, ce modèle de développement visé par le TER pour aller plus vite, ça a aussi des dégâts en supprimant beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens humains.
Juliette Dubois, Dakar, RFI.
L'Itiliti, un film presque 100% africain, coproduit avec une société sénégalaise, distribué par la société Wakumba Film, présidée par Oumou Diganyan.
Pour nous, la vente des films est aussi importante que la nationalité des films en production. Parce que, par exemple, ce film de Mamadou Kouma Gueye, moi, étant quelqu'un qui est né au Sénégal, qui a grandi ici, qui est en contact avec cette histoire, la façon dont je pourrais le promouvoir, je me dis que quelqu'un qui ne s'y connaît pas ne pourrait pas le faire. Et aussi, c'est à la société de vente qui définit en fait la stratégie de vente du film. Et ça, c'est très important. D'habitude, les films font le tour du monde pour après arriver chez nous, 2 années après. Et pour nous, il faut que ça sèche parce qu'on fait ces films d'abord pour nous-mêmes et pour l'autre aspect qui est plus économique, parce que aussi la vente, c'est des pourcentages. Et si ce n'est pas une société locale qui vend ces films-là, si une autre société le fait, l'économie va rester dans cette société-là. Alors que nous, on n'arrive pas encore à rentabiliser nos films, on n'arrive pas encore à parler vraiment d'industrie en Afrique. Donc pour nous, c'est le moment.
Oumou Diganyan, cofondatrice de la société de distribution Wakumba Film. On retrouve tout de suite Andréane Mélard pour notre matinale.